On va passer la parole à Gildas.
Ça fonctionne. Alors bonjour à tous. Bon, je pense que au vu du visuel, certains vont se dire que ça va se gâter. Ouais. Enfin, tout est question de point de vue. Donc en fait, cette intervention, c'est pour réinterroger un peu le punk, la représentation du punk, la perception qu'on a pu avoir aussi à une époque, en dehors des reconstructions qu'on peut faire a posteriori, mais comment ça a été reçu à l'époque. Bon, le truc de base, en fait, c'est on connaît le contexte, que le punk est apparu comme l'enfant illégitime de toute une crise sociale qui a été provoquée par le choc pétrolier de 1973, l'effondrement des bastions industriels. Il y avait des graves conflits sociaux. Il y avait aussi en arrière-plan le terrorisme de l'IRA. De nombreuses émeutes et des tensions raciales. C'est-à-dire que c'était quand même quelque chose, un arrière-plan qui est assez apocalyptique. Cet arrière-plan, en fait, pour parodier quelqu'un, il va avoir un spectre qui va hanter l'Angleterre, un spectre du punk, comme démon de la bourgeoisie et comme signe avant-coureur de l'apocalypse anarchiste. Ce qu'il faut voir aussi, c'est dans le contexte culturel, c'est que le climat du monde de la musique de cette époque reflétait à sa façon les doutes et les tensions affectant la société anglaise. C'est-à-dire que par rapport, on va voir la création du Rock Against Racism, il y a eu toute une époque du monde de la pop qui flirtait avec la provocation avant les punks, avec l'imagerie nazie, ou avec des discours, comment dire, tendancieux, comme Eric Clapton en 76, qui déclenchera une violente polémique suite à des propos à tendance raciste tenus lors d'un de ses concerts. Là, c'est les propos qu'il avait tenus, comme quoi la Grande-Bretagne était saturée, qu'il fallait arrêter l'immigration, etc. Provocation aussi de la part de David Bowie qui en automne 76 assure la presse anglaise après l'avoir salué le bras tendu qu'il croit au fascisme et toutes ces sortes de choses. On pourrait citer aussi Keith Richards, guitariste des Rolling Stones, qui durant la tournée Urban Jungle à la fin des années 80 monte chaque soir sur scène avec un t-shirt arborant en gros caractère Obergruppenführer, c'est-à-dire le grade grade de général dans la Waffen-SS. Jimmy Page, guitariste de Led Zeppelin, qui apparaît sur scène lors de la dernière tournée du groupe en 77 en bottes de l'armée allemande et coiffé d'une casquette d'officier SS. Keith Moon, qu'on peut batteur des Who, qui aimait se promener aussi dans les rues de Londres déguisé en officier nazi. Donc il y avait tout, enfin avant même les punks, il y avait tout ce contexte un peu de provocation. Alors au niveau du punk, ce qui va beaucoup interroger, c'est l'utilisation qui va être assez massive de la croix gammée. Donc là, on peut voir notamment Siouxsie and the Banshees, Sylvie Chess. Alors auparavant, c'était pas, je vais aller très vite sur, c'est évidemment pas idéologisé. David Johansen des New York Dolls se disait tu graves une croix gammée sur ton bureau, tu ne sais pas ce que c'est que le fascisme, ce n'est pas antisémite du tout, les gosses n'en ont rien à foutre de ces conneries. Quand tu veux marquer à quel point tu es mauvais, c'est comme ça que tu fais. En fait, c'est d'une part, enfin pour certains, c'était un signe de rébellion, de provocation. D'autre part, ça avait un sens aussi particulier en Angleterre, parce que toute la jeunesse anglaise était abreuvée à partir de 45 de la nation victorieuse qui avait résisté quasiment seule à une époque contre Hitler. Et il y avait de nombreux films, nombreux reportages. Et utiliser le symbole de la croix gammée, c'était un espèce de, enfin c'était très violent et c'était en même temps une sorte de briser le consensus qui avait été amené par en disant on avait une nation tellement résistante en fait qu'il faut respecter ça. Siouxsie, Sue en fait disait que bon elle ce qui l'amusait c'est quand des vieux racontaient leur fait de guerre, c'est leur répondre ouais mais Hitler était très bien pour les voir s'emporter, devenir rouge de colère, etc. Quoi. On peut noter, il y a une référence ici parmi les provocations, la Belzone was a gas, qui était une chanson écrite ouais, par Sylvie Chess, comme quoi Bergen-Belsen, camp d'extermination, c'était le pied. Donc ça fait des choses qui étaient quand même pas très, qui pouvaient être interprétées de façon très ambiguë. Je voulais montrer quelque chose, bon c'est pas grave. Je voulais juste faire une remarque parce que ça paraît pas, mais dans le film qu'ils ont refait sur Sid & Nancy, en fait ils ont remplacé le t-shirt à croix gammée par un t-shirt avec le fossile et marteau. Comme quoi il y a, même après, a posteriori, dans la reconstruction, on voit que c'est quelque chose qui continue à poser problème. Dans son livre, John Savage en fait définit le punk en disant c'est un nihilisme blanc, adolescent, banlieusard, qui avait été oublié depuis le punk rock des 60s. Quelques-unes des attitudes punk contenaient à la fois l'excitation de briser un tabou, comme par l'usage de la croix gammée, et le malaise quant aux implications possibles, donc ce qu'on va voir après. Quoi qu'il en soit, cette exploration des interdits fut la source de la puissance punk. C'est-à-dire que voilà, c'était quand même quelque chose qui a beaucoup fait parler. Alors, je regarde en même temps, je vais bientôt arriver. La caractéristique en fait du punk qu'il faut rappeler, c'est que c'était un mouvement qui se positionnait comme étant anti-hippie. Donc ça avait été commencé par les Ramones en fait, qui disaient haïr les hippies, c'est le grand truc. McLaren et Westwood, ils haïssaient tous les deux les hippies avec détermination. Donc c'était dans le côté New Future aussi, c'était le positionnement était c'était la fin du rêve quoi. C'est-à-dire que il y avait eu pendant les années 70 la promesse d'un monde de paix, et en fait, au Peace and Love a succédé le Hate and War en disant ce monde de paix n'arrivera pas et il n'est pas possible non plus quoi. Donc caractère prolétaire aussi des premiers contingents de punk avec un discours anti-bourgeois, anti-étudiant et anti-intellectuel. Je pense que ça il faut le rappeler aussi. Alors, il y a, comment dire, sur les mauvaises interprétations, je pense à anti-étudiant, anti-intellectuel. Bon, moi qui ai fréquenté aussi le milieu, c'est quelque chose qui reste. Quand on est vu comme un étudiant, comme intellectuel, c'est pas un truc qui est hyper valorisant, quoi. Celui qui boit plus, celui qui se bastonne plus, c'est quand même sur une échelle supérieure. Je pense que ceux qui, comme moi, quand on intervient, par exemple, et qu'on dit qu'on va faire des communications sur le punk ou sur des choses comme ça, il va avoir plutôt des smileys avec de la rigolade en disant vous faites de la branlette quoi. Et souvent le discours qu'on en retour de ça, c'est que ça sert à rien d'expliquer ça quoi. Ça se vit et c'est pas peine d'en parler quoi. Donc ça c'était la petite parenthèse. Où en étais-je? Voilà. Pour dire ouais, au niveau de la réception. Pour tous ceux qui n'avaient pas la clé pour décrypter le sauvage mélange des signaux du punk, cette combinaison de cheveux ras, de symboles émotionnels et de musique dure et brutale, qui semblait vouloir éradiquer presque toute trace des origines noires de la pop, allait dans une seule et même direction. En fait, à cette époque, pour pas mal de gens, la question de savoir si les punks étaient des nazis se posait, pouvait vraiment se poser, quoi. Il y a une anecdote, alors je pense que si j'avais fait mon intervention avec les punks sont-ils des nazis, ça m'aurait pas rendu populaire ici. Mais il y a le Roddy des Clash en fait qui raconte comment ça va se passer avec les étudiants lors d'un concert à Lancaster Polytechnique. Il dit les Clash passaient en première partie des Pistols. Ils ont refusé de payer les étudiants donc enfin le comité étudiant parce qu'ils pensaient que White Riot était un morceau fasciste. Alors les Pistols ont fait God Save the Queen qui s'appelait encore No Future. C'était seulement la deuxième fois qu'ils la jouaient. Les étudiants ont organisé d'urgence une assemblée générale de leur syndicat et sur ordre du comité, ils ont décidé de ne pas payer ces fascistes. Donc c'était sur les premiers concerts des Clash et des Sex Pistols. Donc pour dire, enfin pour revenir, faire l'historique en dehors des reconstructions. Donc toute l'ambiguïté fasciste dans le punk était alimentée par la manière dont ceci avait expurgé le rock de toute influence noire. Et en fait... c'était quand même quelque chose qui était majoritairement des kids blancs, quoi. Et une manière de, comment dire, quand ils ont senti que ça pouvait poser un problème, disons que le Rock Against Racism a permis de reconnecter en mettant systématiquement sur la même scène des groupes reggae et des groupes punk, de refaire un peu cette unité qui pouvait apparaître sinon assez problématique avec des punks blancs d'un côté et des rastas noirs de l'autre côté. Il n'y avait aucune communication entre les deux. Donc sur l'événement du RAR, c'est-à-dire Rock Against Racism, vous l'avez compris, il va avoir une bataille idéologique au sein du punk. En fait, il va avoir déjà la nécessité de politiser le punk, parce que beaucoup de gens sentaient que ça pouvait partir dans un mauvais sens à une époque où la National Front faisait des scores assez importants et offrait aussi une offre de séduction sur la jeunesse. Il va avoir des débats, en fait, John Savage analyse ça dans son livre, entre ce qu'il appelle les artis, qui portaient un intérêt sans borne à l'expérimentation, et ceux qui vont être plus réalistes sociaux, qui vont vouloir plus ancrer le punk dans le social. Alors, un des groupes qui va interpréter ça, qui va pas être dénué de toute ambiguïté, ça va être Sham 69. C'est-à-dire que ça va être une réaction à un moment sur le punk arty, en disant que ça devient un truc de bourgeois, voire suprême insulte de hippie. et qu'il faut revenir sur du social. Donc ça va s'incarner dans la Hoye, qui va être une sorte de punk de gilet jaune, c'est-à-dire avec toutes les ambiguïtés populistes qui peuvent être qui peuvent ressortir vis-à-vis de ça. Donc pour le SWP, c'est-à-dire le Socialist Worker Party, qui va être derrière le RAR, en fait, ça va être dire il y a toute une jeunesse qui est dépolitisée. Beaucoup de jeunes qui n'avaient aucune position politique, mais qui pouvaient réagir au jugement émis par les musiciens, selon lesquels il était nécessaire de combattre ceux qui mettaient en avant les idées racistes. En fait, l'idée, ce qu'on va voir aussi avec le RAC, rapidement, je suis sûr que je suis obligé d'accélérer à mort, c'est que des deux côtés, il y a la croyance en un pouvoir de la musique. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que, après, ça fait partie des questions, de savoir si finalement, ça ne fait que convaincre des convaincus. Mais... à gauche et à droite, on pense que la musique peut être un instrument pour porter un message idéologique. Alors, ce qui est, j'évoque ça rapidement, ça va être aussi porté par le two-tone, en fait, cette manière de reconnecter en fait les scènes noires, enfin le public noir et le public blanc. Et c'est le two-tone en fait qui va où il va y avoir plus de formations mixtes. Alors, ça a été évoqué sur le film Rude Boy. En fait, ce qui est intéressant, je vais le passer vite fait, c'est comment les jeunes punks, en fait, ont pu comprendre ça. Alors, notamment à travers le personnage, un de leurs groupies qui suit le clash et qui les, en fait, les assomme de remarques un peu naïves ou un peu bêtes. Et ils n'arrêtent pas de leur dire, en fait, je peux pas passer tout extrait, mais les clashs ne devraient pas être politiques. La plupart des partis de gauche, c'est d'hypocrisie. Vous devriez séparer la musique de la politique, mais vous devriez pas être aussi politisé dans votre musique. En fait, au travers tout le film, ils n'arrêtent pas de reprocher aux clashs d'être politisés, quoi. Que le mélange le dérange, etc. Il comprend, il dit toutes ces conneries anti-National Front, tout ce truc anti-nazi, en fait, il comprend pas ça. Il ramène ça à des étudiants, en fait. Et quand il fait ce fameux concert Rock Against Racism, où il voit tous les militants de SWP, il dit, mais qu'est-ce que vous faites à traîner avec des bourgeois et des hippies, quoi. Donc, il comprend pas du tout la chose. J'aurais pas le temps, mais ça a été cité dans John King, Human Punk. En fait, il raconte à un moment comment ils sont dans un concert, ils sont tour à tour abordés par des militants du SWP. Donc, j'ai pas le temps de lire, mais d'une manière drôlatique, il raconte en fait les discours et ce qu'ils en comprennent. Et après, deux personnes qui viennent du National Front. Et en fait, la conclusion, c'est que ils ont rien compris du discours de gauche ni du coup des discours de droite, mais finalement ils ont trouvé que les mecs de gauche parlaient un peu comme des profs prétentieux, intellectuels, et ça les a saoulés, tandis que les mecs du National Front au moins avaient le même accent qu'eux, il y avait un parler populaire, donc finalement ils se sentaient plus proches, donc juste au niveau de l'émotionnel, quoi. Au niveau rapidement de l'engagement du Rock Against Racism, ça va provoquer aussi certains groupes, en fait. Enfin, certains, ça va être une période où les groupes vont devoir se justifier. Donc, Sham 69 va devoir se justifier. Success and the Banshees, rétrospectivement, vont devoir s'expliquer sur leur posture, etc. Madness également, qui était sur le groupe de Ska Blanc, qui devra dire comment ça faisait qu'ils avaient un gros following de National Front. Et certains groupes vont refuser en fait de s'expliquer. Alors Madness disait par exemple, nous ne sommes pas un groupe politique, nous ne sommes pas les Clash ou Sham 69, nous considérons notre musique comme purement artistique et notre seul but est d'amuser le monde. On ne parle jamais du NF, on ne les encourage pas, mais on ne les dénonce pas non plus. Bon, évidemment, ce genre de proposition a fait scandale, mais c'est pour certains. Il y a aussi le morceau du groupe magazine Shot by the Bad Size, qui se termine par la phrase « Mon esprit n'est pas si ouvert » et qui montre en fait, c'est un moment certain qui disait plus arty, on fait de la musique, on défend une liberté créatrice, on n'a pas forcément envie de se retrouver non plus enrégimenté. Quoi. Bon, je pense que je ne vais pas avoir le temps. Hein, pardon.
On passe à cette partie-là.
Ouais, alors en deux secondes, sinon vous vous référez. ce qu'il faut comprendre, enfin... Ce qui est important sur la construction du RAC, Rock Against Communism, donc, c'est que c'est en réaction au Rock Against Racism, mais qui va se construire complètement sur le modèle. Ça veut dire que c'est pareil, comme je disais, croyance de l'influence de la musique. Ian Stewart du groupe Screwdriver dira « Les jeunes ne vont pas dans les meetings politiques, donc il faut les toucher vis-à-vis de la musique. » En fait, le National Front qui cherchait à embrigader la jeunesse dira « Il y a deux espaces où il faut draguer les jeunes, c'est les salles de concert et les stades de football. » Ce qui explique en fait aussi une certaine généalogie du hooliganisme et le RAC. Soit dit en passant, pour les jeunes du National Front, ça n'a pas été évident de faire imposer aux anciens le fait qu'il fallait utiliser le rock comme musique pour faire passer des idées. Parce que pour les anciens, en fait, c'était de la musique de nègre. La vraie musique, c'était musique classique, Wagner, des choses comme ça. Donc il va y avoir expérimentation vis-à-vis du RAC d'un do-it-yourself d'extrême droite, c'est-à-dire que pareil, une fonction autonome, enfin une manière autonome de fonctionner à base de fanzines, de concerts autogérés, de choses comme ça. Pour finir, en fait, il y a quelque chose que je montre dans les images, quand je disais que le punk était anti-bourgeois, anti-intellectuel, etc., anti-prof, la communication du Young National Front, c'est-à-dire jeunesse du National Front, à travers le journal Le Bulldog, c'était aussi de dire, on est, nous aussi, on est contre les étudiants, contre les hippies, contre les profs, et en fait, la posture qui était défendue, c'est ça va être cool d'être National Front parce que ça fait chier tes profs, ça fait chier tes parents. Donc si ça fait chier tes profs et tes parents, c'est que ça doit être cool quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité dans ce discours où il mettait des... C'est la dernière illustration, c'est comment fermer sa bouche à un professeur rouge. Et en fait, souvent dans leur tract, il y avait comment répondre en classe à un moralisateur, à quelqu'un comme ça, quoi. Bon, sur l'évolution, là, le groupe qui va défendre ça, ça va être le Screwdriver, ce que je vais montrer rapidement et après je vais m'arrêter, c'est l'évolution, en fait, des dégaines. C'est-à-dire que, il y a eu une période glam, une période punk, une période après Nazi Skin, telle que tout le monde la connaît. Mais pour dire qu'à l'extrême droite, en fait, il y a toujours eu une fonction. La musique est un outil, en fait. C'est pas un amour du genre en particulier. Jan Stewart de Screwdriver dira lui-même être skin, c'est pas le plus important, c'est être nationaliste. Et la plupart de ces groupes-là, en fait, de par la vision utilitaire qu'ils avaient de la musique, disaient on va faire de la hoï pendant un temps. Quand ça marchera plus, on passera au métal. Eux-mêmes, après, ont fait du rock sudiste. Sur les premières compiles, en fait, de rock, ils pouvaient avoir de la musique froide, les débuts de la musique industrielle. Et jusque maintenant, il y a du rap d'extrême droite. J'ai même vu qu'il y avait du reggae d'extrême droite, donc comme quoi tout est possible. Mais pour dire, c'est pas un amour d'un genre en particulier, c'est se saisir d'un genre et y injecter du discours. Bon, je vous remercie.
Merci. Là encore, il y aurait beaucoup à dire parce que Rock Against Racism a organisé des festivals qui ont rassemblé des milliers de personnes. Or, les festivals RAC ne rassemblaient pas autant de gens et étaient construits différemment. Mais ils viennent effectivement en opposition. Et autre point à souligner, peut-être en remarque, c'est que le Rock Against Communism, qui veut dire donc rock contre le communisme, en réalité, c'est une sorte de cache quelque chose, puisque la plupart du discours est pas spécialement axé contre le communisme ou contre le totalitarisme, mais plutôt sur le racisme, l'antisémitisme et le anti-immigrant. Hein. Donc on est carrément, il suffit de regarder les pochettes de groupes RAC, le néo-nazisme, enfin le nazisme, si on prend les groupes français, Bunker 84, Légion 88, les références au Troisième Reich sont explicites. Et donc il y a cette ambiguïté qui fait que ils se battent pour une autre liberté qui est pas la même, qui est pas du tout la même liberté que les gens qui se trouvent dans les pays communistes et qui subissent le totalitarisme approuvent. Hein, ça c'est une remarque juste personnelle. On va passer donc dans la foulée à la dernière communication.